Nancy Chapuis.
Bonsoir, on vous propose de la lecture dans cette édition. Deux ouvrages sont à découvrir dès demain dans les librairies. Le premier dresse le portrait de personnalités des Franches-Montagnes. Le second s'intéresse au parcours horloger de la famille Gagnebin. Quand des médecins prennent place dans un cockpit, ça peut finir par un crash. Dernièrement, du personnel soignant du réseau de l'Arc a participé à une formation continue, notamment sur un simulateur de vol, reportage dans ce journal. Le ski suisse a deux chances de podium à Killington aux États-Unis. Après la première manche du slalom de Coupe du Monde, Camille Rast pointe au troisième rang provisoire, juste devant sa compatriote Mélanie Meillard, et les écarts sont infimes. Quelques gouttes pourraient tomber ce soir et cette nuit, sinon c'est un temps sec qui est attendu et du soleil en matinée, puis les nuages vont se développer et apporter de la pluie en fin d'après-midi sous des températures légèrement positives. C'est un livre hors du commun qui sort de presse. Marie-Joseph Varin a publié un ouvrage participatif. La correspondante dans le journal Le Franc-Montagnard y a regroupé les portraits publiés de 2015 à 2023 dans la rubrique Racines. Des personnalités des Franches-Montagnes y racontaient leur parcours sous l'angle de leurs origines. Dans son ouvrage, à la fin de chaque chapitre, la praticienne en récit de vie a laissé des pages blanches pour que le lecteur puisse lui aussi déposer sa propre histoire et pourquoi pas transmettre le livre annoté à ses proches. Marie-Joseph Varin.
Alors c'est une des possibilités effectivement et le livre a été pensé comme ça et aussi pour provoquer les rencontres avec les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir se dévoiler, pour pouvoir échanger et pour pouvoir affiner le lien aussi, enrichir la relation et je trouverais ça magnifique.
Ça c'est votre casquette praticienne en fin de vie, c'est ça?
Alors doula de fin de vie bien sûr, le côté de pouvoir se raconter et tisser des liens et puis la praticienne en récit de vie c'est aussi la richesse de chaque histoire bien sûr. Les gens généralement quand je m'adresse à eux, ils disent mais qu'est-ce que je vais bien raconter, ma vie elle est banale, enfin il n'y a rien, elle est juste ordinaire et finalement dans chaque vie il y a des moments comme ça, des pépites qu'on peut retirer mais qu'on ne voit pas soi-même tout seul dans son coin et parfois ça mérite d'avoir un face à face pour pouvoir mesurer l'ampleur de ce qui a été vécu.
L'ouvrage Racine sera disponible dès demain dans les librairies de la région. Et c'est l'horlogerie qui est au cœur d'un nouvel ouvrage. Hier, le livre intitulé « Parcours horloger de la famille Gagnebin au siècle des Lumières » paru aux éditions Alphil, était présenté à la Corona Sonsbo. L'auteur Rosella Baldi est historienne de l'art rattachée à l'Université de Neuchâtel. Elle nous dévoile le contenu de ce livre qui s'intéresse à des personnages moins connus de cette famille d'horlogers.
Le livre vous présente quelques profils de plusieurs membres de la famille Gagnebin qui, au XVIIIe siècle, ont entretenu un lien avec le monde de l'horlogerie. Et c'est une approche un peu différente qu'on a adoptée avec la famille Gagnebin et David Gagnebin qui est derrière ce projet éditorial pour parler d'horlogerie. Parce que d'habitude, je pense que vous le savez, on parle toujours des grands héros de l'horlogerie, des grands génies de l'horlogerie qu'on considère comme des figures un peu isolées. Et là, en fait, on avait vraiment envie de remettre en valeur une histoire familiale, mais donc aussi une histoire collective de l'horlogerie pour montrer que finalement, cette histoire, notamment au XVIIIe siècle, est extrêmement riche, extrêmement dynamique. Et il y a différentes manières de participer à l'essor de cette grande entreprise horlogère jurassienne qu'on connaît aujourd'hui.
Rosella Baldi, auteur du livre « Parcours horloger de la famille Gagnebin au siècle des Lumières ». Dans l'actualité nationale, si la langue bleue s'est répandue dans les fermes de Suisse, la maladie n'a pas épargné les élevages de bisons. Plusieurs animaux ont contracté la langue bleue. L'Association des bisons d'Europe de la forêt de Suchy a annoncé aujourd'hui le décès d'une femelle née en 2017. La Géorgie s'enfonce dans la crise. Le Premier ministre géorgien exclut aujourd'hui l'organisation de nouvelles législatives, comme le réclame l'opposition. Depuis trois nuits, des manifestations pro-européennes secouent l'ex-République soviétique. Il y a un mois, ces élections ont été remportées par le parti au pouvoir du rêve géorgien, mais dénoncées comme entachées d'irrégularités par l'opposition qui boycotte le nouveau Parlement. Rien de concret pour lutter contre la pollution plastique. Les négociations menées pendant une semaine à Busan, en Corée du Sud, pour parvenir à un traité mondial, ont échoué. Constatation dressée aujourd'hui par le président des débats onusiens. Les représentants de plus de 170 pays ont tenté de trouver une solution pour réduire cette pollution qui envahit les océans, les sols et s'infiltre à l'intérieur du corps humain. Mais les pays pétroliers ont fait bloc sur trois points. Le principe de réduction de la production mondiale de plastique, l'établissement d'une liste de produits jugés sujet dangereux pour la santé. Enfin, le financement de l'aide aux pays en développement désireux de se doter du système de gestion des déchets efficace. Des parallèles à tirer entre le monde médical et l'aéronautique. Jeudi, une trentaine de médecins et de personnels soignants du réseau de l'ARC participaient à une formation continue proposée par la société jurassienne Formacim à Delémont au programme des simulations médicales et une séance sur le simulateur d'Airfly Sim. Les praticiens du Jura bernois ont ainsi pris place dans les sièges de pilote et copilote d'un Airbus A320 pour tenter un atterrissage. Reportage.
Vous serez projeté en l'air, ouais, en face d'une piste, la piste 14 à Zurich. Votre objectif, c'est de poser l'avion.
Ok, très bien.
Vous êtes très allé, Christopher.
Ah ouais, complètement. Pas du tout.
Serge, vous gérez l'avion.
Alors moi, je gère, ouais. J'ai toujours été pilote. Bientôt médecin et pilote, alors du coup, là, c'est bon. J'ai mon rêve. Médecin pilote. On va se cacher.
Docteur Alain Kenfak.
Vous êtes l'instigateur de cette journée de simulation. Qu'est-ce que vous cherchez via cet après-midi ici dans ces simulations ?
C'est de travailler d'une autre façon en équipe, avec nos équipes, autour de projets communs. Et je crois que c'était un peu la promesse de cet atelier et des activités qu'on a choisies. C'est de pouvoir aborder dans un cadre différent, dans un cadre ludique, des situations complexes qui ressemblent à celles qu'on vit en médecine, au lit du patient ou dans un hôpital. Et donc ça permet de différemment travailler sur des situations pour nous préparer à ces situations dans la vraie vie.
Moi j'aimerais que tu me donnes chaque 30 secondes l'information suivante, la vitesse. Tu as des volets et le temps d'atterrissage. Où est-ce qu'on en est? Tous les 30 secondes, plus ou moins. Je vais te rappeler quand je peux, mais la notion de temps, elle est toujours assez relative.
Donc, je vais baisser la vitesse à 180.
Très bien.
Serge et Christopher, vous venez de finir la petite séance dans le poste de pilotage. Comment ça s'est passé?
Très bien. Très amusant. Pas stressant du tout. Honnêtement, c'était plutôt du plaisir.
Bon, le premier atterrissage, pas top.
Alors, j'avais pas toute la classification, du coup, en fait. Je savais pas qu'il fallait freiner jusqu'au bout et puis mettre le joystick contre la piste, malheureusement, mais voilà, il faut bien apprendre.
Par contre, Christopher, là, pour le coup, la deuxième, c'était bon.
Oui, si on sait qu'il faut rester le nez pointé sur le sol et après ça freiner, ça aide quand même vachement plus pour arrêter le véhicule.
Il est descendu.
Ok, c'est un bon niveau, bien. Voilà, faut que je crie un petit peu parce que je suis tout à fait dans le bon axe. Voilà, je suis à nouveau calibré.
Est-ce que vous arrivez à tirer des parallèles entre ce que vous avez vécu dans ce poste de pilotage que ce que vous pouvez vivre dans vos métiers de médecin soignant?
Alors je pense qu'on fait toutes ces erreurs initialement, de procédure, des erreurs individuelles, et puis là du coup c'est de les corriger. Et c'était un peu le cas, je pense, la première fois on a fait des erreurs, j'en ai fait personnellement, et du coup mon expérience a servi pour que le prochain ne fasse pas l'erreur. Donc plutôt pas mal.
Je rajouterais juste une autre chose, c'est aussi la communication, qui est aussi extrêmement importante. On communiquait quand même beaucoup, je savais exactement à chaque moment où on en était, par rapport à la vitesse, par rapport au volet, par rapport à la situation, on va dire, en dehors du vol. Serge, il savait aussi la même chose, la communication. Je pense que c'était la clé, en fait, de bien réussir à atterrir.
Là, j'imagine. Ah, mince. On a rebondi. Ah, mince. Ah non !
Dommage.
Et c'est le crash. J'ai retrouvé une vidéo de cette simulation de vol sur notre site internet.
Sport.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Meusy. En ski alpin, une nouvelle chance de podium se dessine pour la Suisse à Killington.
Après la troisième place de Camille Rast hier lors du géant dans la station du Vermont, la skieuse valaisanne pourrait bien en remettre une couche aujourd'hui lors de la première manche du slalom de Coupe du Monde qui s'est tenue cet après-midi. Camille Rast a terminé troisième juste devant Mélanie Meillard. Les précisions de Stéphanie Wenker.
Quel week-end pour Camille Rast. La Valaisanne pourrait bien signer un deuxième podium à Killington, une semaine seulement après être montée sur la boîte pour la première fois de sa carrière. La skieuse valaisanne est placée à seulement 12 centièmes de l'allemande Lena Dürr et un petit centième la sépare de la deuxième place de la suédoise Anna Svern Larsson. Camille Rast est également talonnée par une autre valaisanne, Mélanie Meillard. La neuchâteloise Derremans enregistre 30 centièmes de retard sur le podium. Les Suissesses profitent donc également de l'absence de Michaela Schifrin, blessée la veille en géant, et de celle de Petra Vlova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier. La deuxième manche se tient à 19h heure suisse et elle promet son lot de surprises.
Et puis les autres Suissesses sont classées plus loin. Wendy Holdener est 9e, Michel Gisin se trouve à la 24e place provisoire, juste devant Aline Pli. Eliane Christen est 37e, Nicole Good et Aline Dagneau ont été éliminées. Une faute qui coûte cher à Steve Guerda. Le cavalier jurassien a terminé 7e du Grand Prix CSI 5 étoiles de Madrid cet après-midi. Sur l'Ancelotta, le Vadet a commis une erreur, lui valant 4 points de pénalité pour un chrono de 40 secondes 56, un temps meilleur que le vainqueur, l'Italien Pier Giorgio Bucci, mais le Transalpin a été auteur d'un sans-faute. Le VFM conclut le premier tour de Liga par une défaite frustrante. Le volleyball Franche-Montagne a perdu 3-0 à Esch cet après-midi. Si le premier set a été remporté facilement par les Baloises 25-12, les Tenyons ont laissé filer les deux suivants de peu, 25-22 et 25-20. Cette deuxième défaite de suite en championnat bloque le VFM au 7e rang, à 9 points du podium. L'entraîneur franc-montagnard Mélanie China sera d'ailleurs l'invité du rendez-vous sport demain à 8h15 dans la matinale pour tirer le bilan de cette première partie de saison. Ils ont su frapper juste. Bruno Kikré et Noah Bonpan se sont illustrés aujourd'hui lors des championnats de Suisse de Kick Light et de Light Contact, deux variantes du kickboxing. À Ruti, dans le canton de Zurich, le Brun-Trutin de 17 ans s'est emparé du titre de vice-champion de Suisse en Kick Light en catégorie 16-18 ans, plus de 70 kilos. Son coéquipier prévotois de 14 ans de la Team Fight Kickboxing à Delémont a lui aussi terminé vice-champion national en catégorie 14-16 ans, plus de 170 cm. Et dans la discipline du kick light, Bruno Kikré a été éliminé en quart de finale alors que Noah Bonpan s'est classé 3e. Et pour terminer, football, Sion a obtenu un précieux succès à Winterthur ce dimanche en Super League. Les Sédinois se sont imposés 3-1 et comptent désormais 9 points d'avance sur la lanterne rouge Grasshopper. Et puis deux autres matchs sont en cours. Young Boys fait la course en tête 2-1 contre Saint-Gall et revient provisoirement à 1 point du top 6. Alors que dans le duel de haut de tableau à Genève, entre Servette 4e et Lugano 2e, le score est de 1-0 pour les Genevois qui reviennent provisoirement à 1 point du leader Bâle. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer.